Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'AREN, l'émission d'information locale de Canal B, et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un retour sur les élections sénatoriales passées un peu incognito ce week-end, deux interviews pour annoncer un mardi de l'égalité sur les compositrices oubliées, puis pour annoncer le traditionnel forum du bénévolat, il y aura de la musique dont une nouveauté, puis une recommandation, des aides pour désimperméabiliser le sol près de chez soi, je l'ai dit, bienvenue dans l'AREN. Comme chaque jour, on commence avec l'info du jour, une info que je retiens pour vous. Là, retour donc sur les élections sénatoriales partielles qui avaient lieu hier dimanche 24 septembre. 170 des 348 sièges de la Chambre haute du Parlement étaient remis en jeu pour les 6 années à venir. Le scrutin, il est indirect. Ça veut dire que ce sont les grands électeurs qui votent. Il s'agit de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux et départementaux, ainsi que de délégués de conseils municipaux. Résultat des course, pas de grand bouleversement. La majorité formée par les Républicains et les centristes garde la main avec une certaine stabilité. Gérard Larcher a d'ailleurs été réélu pour un sixième mandat et a des chances de rester président de ce Sénat. Le Parti Socialiste reste le groupe d'opposition le plus nombreux. Les groupes verts et communistes, avec qui une alliance a été passée, progressent un petit peu. Et puis il y a le groupe Renaissance de la majorité présidentielle qui lui est en léger recul, contrairement au parti Horizon d'Édouard Philippe. Enfin, fait notable, le Rassemblement National fait son retour avec trois élus, donc dans le Sénat. En Bretagne, le Morbihan faisait partie des 38 départements concernés par ces élections. Trois sièges étaient à pourvoir pour 7 candidats déclarés. La sénatrice Les Républicains Muriel Jourade est donc réélue pour un second mandat. Yves Blevin, centriste et qui se trouve être président de l'association des maires du Morbihan, rejoint lui aussi le palais du Luxembourg. Et le troisième et dernier, c'est Simon Usna, président de la fédération du Parti Socialiste dans le Morbihan, mais aussi conseiller régional et municipal. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on poursuit avec une première interview. Héloïse Luzzati, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes alors violoncelliste et puis engagée dans la valorisation des compositrices de musique. Vous participerez au premier mardi de l'égalité de la rentrée. Ce sont des conférences mensuelles qui sont programmées par le service culturel de l'université à Rennes 2, à chaque fois pour parler égalité homme-femme. Et le prochain, eh bien, ce sera en votre compagnie mardi 26 septembre à partir de 18h au tambour sur le campus de l'université Rennes 2. Vous allez me dire si je me trompe, Héloïse, vous avez 38 ans, vous vivez en région parisienne, vous jouez du violoncelle depuis très très longtemps et c'est finalement assez récemment que vous avez réalisé que vous n'aviez jamais joué un morceau composé par une femme. C'est bien résumé ?
C'est parfaitement résumé. Et ça commence, alors je le dis récemment, mais en fait les années passent et ça commence à faire quelques années maintenant que cette question de la visibilité des œuvres des compositrices est devenue un axe central dans ma vie.
Je vais citer quelques noms, Beethoven, Mozart, Bach, Schubert, Chopin ou encore Verdi, les noms des compositeurs les plus connus en tout cas dans l'imaginaire collectif et qui ont d'ailleurs donné leur nom aux salles dans des conservatoires, ce sont ceux d'hommes, de compositeurs. Juste pour préciser, on parle plutôt du chant de la musique classique, surtout du 19e siècle ?
On parle bien entendu, en tout cas dans mon cas, du chant de la musique classique. Et les compositeurs que vous avez cités font partie de ce champ de la musique classique. Après, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas uniquement le 19e siècle, mais effectivement avec un intérêt certain pour les 19e et 20e siècles, mais toute l'histoire de la musique est intéressante à prendre en compte.
Ce qu'on découvre avec votre travail, c'est que donc au 19e siècle, eh bien, à l'époque, on compte un millier de compositrices en France. Certaines ont beaucoup de succès, ont créé des chefs-d'œuvre. C'est un mouvement qui n'est pas français, mais aussi européen. C'est pour ça qu'on retrouve pas uniquement des compositrices françaises dans le travail que vous menez.
Tout à fait, des compositrices, il y en a eu partout. Alors oui, il y a une très grande école française chez les hommes comme chez les femmes. Mais il y a énormément de compositrices anglaises, allemandes, comme pour les hommes dans tous les pays.
pour en citer une, compositrice allemande, Fanny Mendelssohn, et je vais en citer d'autres, des noms que les auditeurs, comme moi, alors je l'avoue, n'ont probablement jamais entendu, Germaine Taillefer, Mel Bonis, Ethel Smith, Clémence de Grandval, autant de noms d'un matrimoine qui a été oublié. On peut peut-être s'arrêter sur Charlotte Soy, puisqu'elle fait l'objet d'un concert dessiné demain, mardi 26 septembre, juste après la conférence que vous animez. Comment est-ce qu'on peut la présenter, Charlotte Soy ?
Alors, Charlotte Soy, c'est une compositrice donc française qui est née en 1887. Donc, elle a vécu à la charnière des 19e et 20e siècles. Elle a étudié, et c'est un fait assez rare, avec une autre compositrice qui est Mel Bonis. Je le dis parce que finalement, on connaît assez peu les interactions entre les compositrices elles-mêmes, beaucoup plus les interactions des compositrices avec des compositeurs. Elle a, ce qui est, on va dire, dans les traits marquants de sa vie, c'est qu'elle a su concilier une vie de famille intense, elle a eu plein d'enfants, avec une vie musicale et culturelle très développée. Elle a été soutenue par son mari, Marcel Labelle, lui-même compositeur. Et voilà, elle a composé dans tous les styles, de la musique de chambre, de la musique pour piano solo. Elle a composé un opéra, de la musique symphonique, de la musique pour chœur. C'était donc une artiste, comme on dit, complète.
Petite curiosité, elle a parfois signé certaines de ses créations du nom de son grand-père, et son travail, vous l'avez mis en lumière en 3 albums, ce qui constitue donc une première monographie pour cette artiste qui est sortie en 2022 sur un label qui s'appelle La Boîte à Pépites, que vous avez créé et qui justement met en lumière, mais de plein de façons différentes, ces compositrices oubliées.
Tout à fait. Parmi les missions qu'on s'est données avec cette boîte à pépites, il y a de faire redécouvrir, comme vous venez de l'expliquer, des monographies de compositrices, donc de faire découvrir une grande partie de leur œuvre pour pouvoir s'immerger totalement dans leur langage. Et effectivement, en parallèle de ça, on a créé une chaîne de vidéos qui s'appelle également La Boîte à Pépites, avec laquelle on essaye de raconter les vies de ces compositrices pour qu'elles puissent être rattachées à une histoire commune.
Derrière ce travail de valorisation se cache un travail qu'on imagine un peu compliqué, puisque la difficulté, c'est la suivante. Il n'y a pas de livre dédié à ce sujet, des compositrices donc classiques du 19e siècle. Il n'y a pas non plus d'enregistrement. Ce qu'il reste, ce sont les partitions, mais là aussi, il y a un sacré travail pour déjà les retrouver.
Alors, il n'y a pas de livre, il y en a quand même quelques-uns, heureusement, dont notamment un très, très complet sur les compositrices françaises qui a été écrit par Florence Launay. Donc, c'est quand même important de le dire parce que il y a quand même des musicologues qui ont travaillé sur le sujet. Alors, bien sûr, elles sont absentes de l'histoire de la musique en général. C'est-à-dire que, par exemple, mon histoire de la musique avec laquelle j'ai grandi en tant que jeune élève, puis étudiante et jeune professionnelle, ne mentionnait pas ou quasiment pas de compositrices. Pour ce qui est des enregistrements, pareil, heureusement, il y en a quand même un peu. On trouve des disques de la musique de Fanny Mendelssohn, de Clara Schumann et de plein d'autres compositrices d'ailleurs, de plus en plus. Mais il reste effectivement certaines compositrices pour lesquelles il n'y a rien ou quasiment rien. Et effectivement, c'est souvent en raison d'une absence de partition. C'est-à-dire quand les partitions sont trop difficiles à trouver, même parfois complètement dissimulées, bien entendu, la musique ne peut pas être jouée facilement. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on n'a pas de partition, on ne joue pas la musique. Si la musique n'est pas enregistrée, les programmateurs ne peuvent pas la programmer. Et donc, de fil en aiguille, on arrive à une forme d'invisibilisation comme ça. Heureusement, pas chez toutes les compositrices, mais chez certaines encore très fortement.
On les retrouve où, ces partitions ? Sur le dark web, ça marche comment ?
J'aimerais bien qu'on les retrouve sur le dark web. Quand on est chanceux, elles existent en bibliothèque, à la Bibliothèque nationale de France ou dans d'autres grandes bibliothèques en Europe, ou dans le monde d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de compositrices françaises dont on retrouve les œuvres aux États-Unis. Et puis beaucoup de fonds sont encore chez les descendants des compositrices qui, de manière assez systématique, n'ont pas déposé leurs œuvres en bibliothèque. Donc souvent, pour retrouver des partitions, il faut retrouver des descendants. Et quand elles n'ont pas de descendants, c'est terriblement compliqué et parfois même assez infructueux, malheureusement.
Vous avez évoqué un peu la question de la programmation. Pour exister, une musique doit être jouée. C'est là que c'est intéressant, c'est que la responsabilité finalement sur une forme d'effacement d'un matrimoine, on parle d'une responsabilité partagée dans le passé, mais également à conjuguer aussi au présent, responsabilité à la fois des historiens, mais aussi donc des programmateurs encore aujourd'hui.
J'essaye toujours d'être, mesurée dans ma réponse à cette question. C'est très difficile de demander aux gens, aux programmateurs en l'occurrence, de savoir quoi programmer quand la place des compositrices est si récente dans le panorama musical, en tout cas en France. Ce n'est pas forcément le cas en Allemagne d'ailleurs. Donc plutôt que de taper entre guillemets sur les programmateurs, j'aurais plutôt envie de dire finançons des dizaines et des dizaines d'enregistrements de très grande qualité pour inspirer et donner envie aux musiciens de jouer de la musique qu'ils ne connaissent pas et aux programmateurs de programmer des œuvres qui effectivement peuvent faire peur parce qu'on peut avoir peur qu'elles ne fassent pas remplir les salles de concert.
Je reviens à Charlotte Sohi qui est donc au cœur d'un concert destiné à découvrir mardi 26 septembre au Tambour à partir de 20h, juste après la conférence que vous animerez, le mardi de l'égalité, le premier de la rentrée. Pour dire un mot sur les illustrations qui ont une place importante dans votre travail, c'est parce que c'est indispensable quand on fait justement de la vulgarisation et on peut d'ailleurs redire qu'il y a une exposition toujours en cours jusqu'à la fin de semaine sur ces compositrices dessinées.
Alors, il y a plein de raisons, au fait, pour moi, de passer par le dessin. D'abord, ça rend accessible, c'est beau, c'est toujours une donnée importante. Et certaines compositrices, on n'a pas de documentation iconographique. Ça permettait d'avoir, coûte que coûte, une manière de les faire revivre, même en l'absence d'archives les concernant. Et effectivement, je crois que ça les rend accessibles pour tous les âges, notamment pour la jeune génération. Faire des dessins animés sur les vies des compositrices, ce sera toujours plus rigolo pour un enfant de 10 ans qui aime ou n'aime pas la musique que de regarder un documentaire avec des vieilles images en noir et blanc.
Et donc la dessinatrice en question, c'est Lorraine Guédon, dont on peut toujours observer, voir le travail au Tambour avec son exposition compositrice dessinée qui est à voir jusqu'à la fin de semaine ici à Rennes. On a parlé du label qui s'appelle La Boîte à Pépites. Vous multipliez, on va dire, les actions autour de ces compositrices oubliées. Vous avez aussi lancé un festival il y a 3 ans, en 2020. À chaque fois, ça se passe au mois de juin dans le Val d'Oise et ça s'appelle Un temps pour elle. Ma dernière question, c'était de vous demander finalement à quoi sert tout ce travail. C'est pas juste un regard sur le passé, c'est aussi fournir des modèles aux petites filles d'aujourd'hui qui vont se mettre à la musique et de leur dire vous pouvez en tant que petite fille composer de la musique.
Alors aux petites filles, mais pas que aux petites filles, aux petits garçons aussi. Mon fils qui fait du piano et qui a 9 ans, enfin un de mes fils, me disait il y a quelque temps en observant sa méthode de piano, il disait « Maman, c'est pas un peu bizarre, il n'y a pas de compositrice dans ma méthode ». Donc en fait, le regard, il est important pour, je pense, autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Bien entendu, réhabiliter les compositrices du passé, c'est inspirer la jeune génération sur la possibilité de composer. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que en réhabilitant ces compositrices, c'est pas une manière de réécrire l'histoire de la musique. On n'enlève rien à ce qui a été écrit. On l'a complété d'une partie qui lui est manquante. Et je pense que toutes les initiatives qui commencent à être nombreuses, d'ailleurs, aujourd'hui dans la musique, pour qu'on accorde une plus grande visibilité à ces compositrices, concourent à compléter cette histoire de la musique.
Et aussi réhabiliter des chefs-d'œuvre qui sont inconnus du grand public aujourd'hui.
Tout à fait.
Je vous représente Héloïse Luzzati, vous êtes donc violoncelliste et engagée, on l'a compris, dans la valorisation de ces compositrices de musique oubliées. Vous animerez le premier mardi de l'égalité de la rentrée, mardi 26 septembre à partir de 18h. Rendez-vous au Tambour sur le campus de l'université Rennes 2 pour vous rencontrer. C'est une conférence qui est gratuite et suivie d'un concert dessiné à 20h avec la dessinatrice Lorraine Guédon. Et là, les tarifs vont bien de la gratuité jusqu'à 15€. Pour plus d'infos, il y a le site internet culture.service.unif-n2.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Octobre sur Canal B, un morceau de Charlotte Sohi, compositrice française du 19e siècle. C'était la sélection musicale de l'invité qu'on vient juste de quitter, la violoncelliste Héloïse Luzzatti. Et ce titre, il est à retrouver sur l'album Charlotte Sohi Piano Music, qui est sorti en 2022 sur le label La Boîte à Pépites. Allez, la reine, l'émission d'information locale de Canal B continue avec une deuxième interview. René Mélou, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes président de l'association France Bénévolat 35 qui organise son traditionnel forum du bénévolat. Rendez-vous à la Halle Marteneau, près de la place des Lys, à Rennes, jeudi 28 septembre. On redit que ce que France Bénévolat a quand même de spécial, c'est que c'est certes une association, mais qui cherche à développer donc l'engagement bénévole en lien, en renvoyant donc vers d'autres associations, un peu un relais.
Oui, tout à fait. Nous sommes effectivement une structure 100% associative, 100% bénévole, qui sert de passerelle entre les candidats, candidates au bénévolat et les associations qui recherchent des bénévoles.
Votre siège, c'est la maison des associations,
oui,
où on se retrouve.
Oui.
Il y a combien d'associations adhérentes dans votre projet aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on doit avoir à peu près 300 associations, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que ça varie tout le temps, puisque le vivier des associations est un vivier vivant, bien entendu, puisqu'il y a des associations qui ont des besoins particuliers et nous rejoignent. Et une fois qu'elles ont trouvé, effectivement, les bénévoles qu'elle recherchait ne restent pas forcément nos partenaires. Il y en a d'autres qui continuent et jouent le jeu comme on fait au niveau d'une adhésion à un projet associatif dans une association, même si on n'a pas d'activité particulière. Donc voilà, donc ce sont des choses qui vont et qui viennent. Mais ça nous donne une très très large palette
d'activités,
de types de missions. Donc il y a de quoi satisfaire.
Comme on va parler bénévolat, justement, chez France Bénévolat 35, il y en a combien des bénévoles comme vous qui font vivre ce projet
Alors nous sommes à France Bénévolat 35, nous sommes une quinzaine de personnes qui effectivement faisons vivre à la fois en accueillant du public, puisqu'on accueille du public ici, des personnes en recherche de bénévolat à la maison des associations, et autrement pour les tout types d'activités, puisque nous faisons beaucoup d'interventions aussi à l'extérieur, dans les entreprises, pour préparer dans les journées de préparation à la retraite, auprès des jeunes retraités par le biais des caisses de retraite, des tables rondes, des conférences, etc., plus des missions par ailleurs, des programmes qui ont tous le même objectif, c'est de faire en sorte de permettre aux publics les plus éloignés du bénévolat de pouvoir effectivement rentrer dans le monde associatif. On pense aux jeunes suivis par la mission locale, aux personnes en situation de handicap physique ou non physique, aux personnes bénéficiaires de RSA, aux migrants, aux personnes sous main de justice. Enfin, voilà, ça, ce sont des programmes spécifiques.
Et vous faites donc aussi dans l'événementiel avec là ce gros temps fort du forum du bénévolat qui arrive à chaque fois au moment de la rentrée, mais après les forums des associations, faut pas confondre, on redit la différence.
Ouais, merci de me donner cette occasion-là, parce qu'effectivement le forum des associations de la rentrée a surtout pour objectif de faire connaître ses activités pour les associations et de faire adhérer à un projet associatif, à des activités qui sont soit gratuites, soit ce que j'appelle tarifées. C'est tant le mois, le trimestre pour faire tel type d'activité. Le forum du bénévolat, il faut avoir une image, ça se passe à la Halle Marteneau, place des Lys. Donc c'est le marché du samedi matin, mais au lieu d'aller prendre vos légumes et vos poissons, eh bien vous venez rechercher des missions bénévoles.
On redit un mot rapidement sur l'édition 2022 avec quelques chiffres. 114 associations étaient présentes et 414 des 1300 bénévoles potentiels se sont finalement engagés après ce rendez-vous. C'est beaucoup ou ça veut dire que ça fonctionne
Alors, la première des choses, c'est que les 400 et quelques, ce sont des personnes qui se sont engagées tout de suite, pas après. En plus de ces 400 personnes, il y a eu plus de 500 rendez-vous pris pour une rencontre ultérieure. Alors effectivement, vous avez raison, c'est que les associations ont besoin de bénévoles, donc la crise Covid est passée par là. 55% des associations manquent de bénévoles, hein. C'est la dernière étude qui a été faite sur Rennes en relation avec Bug, la maison des associations et la ville de Rennes, et les associations locales bien entendu. Donc 55% en manquent, donc ça c'est quelque chose d'énorme.
Et comment on peut l'expliquer justement cette fuite un peu des bénévoles ? Alors on comprend qu'il y a notamment des retraités qui pour des raisons de santé aussi, puis de climat qui était un peu anxiogène, se sont éloignés du bénévolat. Est-ce que peut-être aussi il y a, je sais pas, un monde qui devient plus individualiste où on peine à trouver des petits bras là pour aller aider dans les associations ?
Non, c'est plutôt la première en fait de ce que vous avancez, à savoir que ce Covid a créé une véritable rupture pour tout le monde d'abord, et pour le monde associatif. D'abord, il n'y avait plus le droit de sortir de chez soi. Donc il y a eu une démotivation des personnes qui étaient engagées dans des associations et qui ne pouvaient plus être engagées. Donc ça, c'est la première chose. La première était surtout la protection en termes de santé, bien entendu. Et donc ça a été très compliqué. Ensuite, pour revenir, d'autant plus que sur un profil particulier qui est celui des administratrices et des administrateurs, il y a dans beaucoup d'associations des responsables, notamment des membres du bureau, président, vice-président, coprésident, trésorier, secrétaire général, qui disent depuis des années qu'ils veulent arrêter. Sauf que la veille de l'Assemblée Générale, on vient les voir en leur disant « Écoute, on n'a trouvé personne, est-ce que tu peux remplir encore pendant un an ?» Donc ils l'ont fait, mais pas une seule fois. Sauf que là, il y a eu une cassure de plus d'un an, et bien ces personnes-là qui avaient pris cette décision, qui ne passaient pas à l'acte, sont passées à l'acte. Et ce qui peut être dramatique pour des associations, c'est que dans un premier temps, ce sont les autres membres du conseil d'administration qui ont pris le relais pour prendre en fait effectivement les tâches, les activités de ces personnes-là. Sauf qu'elles vont vite, elles commencent, parfois ça a été un petit peu plus loin, ou elles s'épuisent, et avec un risque de boule de neige, à savoir que d'autres personnes vont partir. Donc là, il y a un vrai, vrai, vrai sujet. Donc ça montre bien qu'effectivement, en matière de recherche de bénévoles, on est parti de très haut, puisqu'on est parti sur la gouvernance, mais on a tout type d'activités, que ce soit des missions de terrain, ce qu'on appelle des missions support, à savoir la comptabilité, l'administratif, la communication, la gestion des réseaux sociaux, des sites web, faire de la com, aller chercher un petit peu de sous à droite et à gauche, travailler sur des projets ou rentrer dans la gouvernance.
Parce qu'on a tendance à surtout penser au terrain. Quand on s'engage comme bénévole, on n'est pas forcément conscient de toutes ces tâches support qui se cachent derrière une association.
Votre remarque est intéressante parce que de temps en temps, et c'est ce qui va se passer jeudi, on va nous parler des administrateurs qui manquent, voire des présidents qui sont partis. Ils sont peut-être partis parce qu'ils se sont retirés. Il y a des raisons qui sont moins souriantes. Et puis, il y en a d'autres où, parce qu'ils sont partis à l'extérieur, ils sont à la retraite maintenant, donc ils ne sont plus présents. Et quand on parle avec les associations, elles nous disent « Ouais, on a vraiment un souci. » Et on leur demande « Mais est-ce que vous nous avez transmis l'information comme quoi vous recherchez quelqu'un pour rejoindre votre conseil d'administration ?»« Ah ben non, ce sont des membres du conseil d'administration. » « Mais ces membres du conseil d'administration sont bénévoles ?» Oui. Et là, tout de suite, la personne se dit, effectivement, on a complètement zappé. Et ça correspond tout à fait à ce que vous dites sur la notion de terrain. Ouais.
Quels sont aujourd'hui les publics que vous cherchez particulièrement à mobiliser ? Vous avez parlé des nouveaux retraités qui, forcément, ont l'avantage d'avoir un temps nouveau qui est à disposition pour du bénévolat. On pense aussi forcément aux étudiants dans une ville comme Rennes, mais qui est pour le coup un public qui est là de façon moins durable, qui est peut-être un peu plus volatile, difficile à capter.
Alors, tous les publics sont intéressants pour les associations. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut surtout pas s'auto-censurer quand on cherche en fait à s'engager dans le bénévolat. La notion de disponibilité, est-ce que ce que je propose va correspondre aux besoins des associations ? C'est dans un deuxième temps la réflexion de l'association qui va dire, en fonction de la personne, voilà ce qu'elle propose. Elle vient quand même proposer de son temps, hein, donc elle fait une démarche extraordinaire. Et après, c'est à l'association de dire, moi ça correspond ou ça ne correspond pas. Donc effectivement, on a toute cette génération de jeunes retraités, de retraités. On a les jeunes, et pourquoi les jeunes ? Parce que d'abord, contrairement à ce que certains voudraient encore nous mettre dans le crâne, ils sont super, nos jeunes, voilà, parce que quand on entend des choses, on a vraiment envie de claquer certaines personnes, c'est une image, hein, je ne suis pas violent. Mais nos jeunes ont compris que, notamment ceux qui quittent l'école, hein, leur parcours, c'est 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et bien plutôt que de laisser perdre leurs acquis théoriques, s'ils ne trouvent pas de travail, le monde du travail, les portes ne s'ouvrent pas, et bien ils passent à l'action dans le monde de l'association. Et nous ce qu'on dit c'est que l'association et l'entreprise, c'est la même chose, la différence c'est la fiche de paye. Alors j'ai pas dit que la différence était minime, hein. Bien entendu, mais si je ne trouve pas de travail, ça c'est une chose intéressante. La deuxième des choses qu'on retrouve, ce sont aussi des personnes qui travaillent et qui ont envie de s'engager. Alors forcément, si elles travaillent, y compris à temps plein, elles ne vont pas s'engager dans la journée. Par contre, elles veulent bien s'engager le soir, elles veulent bien s'engager pendant le week-end, etc. Donc là, c'est aux associations, effectivement, de réfléchir et de se dire, est-ce qu'on n'a pas laissé de côté des activités parce que c'était hors horaire de bureau, pardon pour l'expression, mais il y a beaucoup d'associations qui sont accessibles à leur public sur des horaires qui ressemblent aux horaires de bureau. Et si oui, on va reprendre ces activités, et sinon, est-ce qu'il n'y a pas matière en fait à créer certaines choses ?
jeudi 28 septembre de 10h à 18h. On vous retrouvera et le public est convié à venir vous rencontrer dans la Halle Marteneau, place des Lys, pour le traditionnel forum du bénévolat. On le dit, l'entrée elle est libre et vous attendez plus de 100 associations. Sur l'éventail des activités proposées, est-ce qu'il y a des particularités rennaises, des associations qui vraiment en particulier manquent de bénévoles? On sait notamment qu'en ce moment la précarité est grimpante. On entend des associations comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, alertés sur le manque de moyens, mais peut-être aussi sur le manque de bénévoles.
Oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, donc d'abord ces grandes associations qui sont toutes belles, comme les petites, hein, nous on dit toutes les associations sont belles, ont effectivement besoin aussi de bénévoles pour poursuivre, voire développer leurs activités, mais dans tous les domaines d'activité. Alors il y en a un où on a l'impression qu'il y a moins de besoins, c'est entre autres dans le domaine du sport. C'est une image parce que nous, on a rencontré des associations, et des grosses associations rennaises et pas que rennaises, puisqu'on est sur le département 35, et en fait, qui souffrent de l'image qu'ils ont. Parce que vu de l'extérieur, le public se dit, oh bah, de toute façon, t'as vu le nombre de disciplines qu'il y a, le nombre de personnes, le nombre de jeunes, les parents sont là, donc ils n'ont jamais de problème de bénévoles. Et ce n'est pas du tout vrai. Ils peuvent avoir de vrais besoins et souffrir effectivement de cette image. Mais c'est vrai que c'est plus, comme vous disiez, sur la partie sociale, la partie solidarité, où on a besoin. Alors, on a besoin de plus de bénévoles parce que les activités
sont en croissance.
Sont malheureusement en croissance. Mmh. Voilà.
Sur l'éventail plutôt des missions au sein d'une association donnée, on en a déjà parlé. Cet éventail, il est large. On peut donc s'investir sur le terrain, mais aussi à la communication, dans la recherche de partenaires, voire dans le conseil d'administration si on a peut-être un peu plus aussi de temps et de motivation à disposition. Le principal frein à l'engagement bénévole, ça doit être peut-être la peur justement de ne pas être assez disponible, peut-être aussi le sentiment de ne pas avoir de compétences particulières. Sur quel point et puis de quelle façon est-ce que vous êtes amené finalement à orienter, voire à rassurer les candidats ?
Alors la notion, ce que vous soulignez sur la notion de compétence, elle est hyper importante. Nous avons beaucoup de personnes, on a à peu près 25% des personnes qui viennent à notre rencontre physique, à la maison des associations, qui viennent à notre rencontre en nous disant « je ne vais pas trouver en fait, de mission bénévole parce que je n'ai pas de diplôme, je n'ai jamais travaillé, donc je n'ai pas d'expérience ». Donc nous, on leur dit, est-ce que vous savez que vous avez quelque chose qui n'appartient qu'à vous et que personne d'autre sur la planète n'a ? Donc déjà, ils se demandent, France Bénévolat,
où va-t-on ?
Ils sont un peu spéciaux, comme l'empreinte digitale. Eh bien, cet élément unique, c'est l'expérience de votre vie. L'expérience de votre vie, vous avez 40, 60 ans, quel que soit l'âge, en fait, vous avez vécu des choses, vous avez traversé des choses, parfois des choses belles, parfois des choses pas belles, parce que la vie, c'est pas le monde de bisounours uniquement, mais de ça, vous vous êtes enrichi, et rien que ça, pour une association, c'est quelque chose de formidable. Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, une association a besoin de quelque chose avec une compétence particulière. Je prends l'exemple de nos amis de l'UFC Que Choisir. À l'accueil, quand ils y sont, la personne qui est à l'accueil va renseigner d'un point de vue général sur le rôle de Que Choisir, qu'est-ce qu'on fait, comment s'abonner, comment prendre des renseignements. Par contre, si René arrive avec un dossier qui fait 50 kilos en disant « j'ai un gros litige, je voudrais tout de suite rencontrer un juriste, etc. », ce n'est pas cette personne-là. Ça va être quelqu'un d'autre, on va diriger effectivement par quelqu'un qui aura une compétence juridique. Donc l'important, c'est que la personne exprime bien, en fait, d'abord ce qu'elle a envie de faire. Nous, c'est ce qu'on fait hein, quand on reçoit les personnes. Quelles sont vos motivations ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de ne pas faire ? Quelles sont vos disponibilités ? On fait tout cet éventail-là pour, effectivement, après, nous faire le lien avec ce que les associations nous ont dit, en termes, voilà le profil que nous recherchons, pour faire quoi, et quels sont les savoir-faire, les savoir-être, les disponibilités. Et en fonction de ça, nous avons la capacité, effectivement, de mettre, c'est pas très joli à dire, mais l'offre faite par les associations et la demande réalisée par les candidats, candidates au bénévolat.
L'UFC Que Choisir que vous avez cité, qui est une association de consommateurs bien connue, qui a une antenne ici à Rennes. Je vous représente René Mélou, vous êtes président de l'association France Bénévolat 35 qui organise son forum du bénévolat qui existe depuis très longtemps et qui aura lieu cette semaine à Halle Marteneau à Rennes. Ça se déroule jeudi 28 septembre de 10h à 18h. Pour plus d'informations, il y a le site il-et-vilaine-francebénévolat.org.
Oui.
Et le public pourra donc y retrouver une centaine d'associations parmi les, je crois que c'est 5600 en tout sur le territoire rennais.
Ça, c'était l'ancienne version, les 5600.
En fait,
dans la dernière dernière étude, on est à 7000 associations sur Rennes. On parle de Rennes, hein, uniquement. Hein.
Évolution importante.
7000 associations. Je reprécise si besoin était que, bien entendu, l'accès au forum est totalement libre et totalement gratuit. Tout comme, effectivement, ce que France Bénévolat peut faire avec les candidats, candidates au bénévolat. Ou, effectivement, quand on reçoit une information d'une association, on va la mettre à disposition pendant nos rencontres physiques sur notre site internet francebénévolat.org, où la personne pourra, en allant dans la rubrique bénévole, rechercher une mission trouvée. Et ce qui est le plus important aussi, par rapport à des plateformes, il y a beaucoup de plateformes hein, sur le bénévolat qui existent, on n'a pas du tout la prétention d'être unique, mais quand une association dépose son annonce, nous allons chercher dans notre vivier en fait, de candidats, candidates au bénévolat. Aujourd'hui, il tourne autour de 4000 personnes hein, qui sont dans notre vivier à nous dire « j'ai envie de m'engager ». Eh bien, celles et ceux dont les envies, les disponibilités, savoir-être, savoir-faire correspondent à l'association et nous les contactons individuellement. Voilà, ça, ce sont les plus qu'essaye de faire France Bénévolat, mais on y réussit pas mal.
Merci beaucoup, René.
Ben, merci à Canal B de nous recevoir. Vous êtes précieux. Tell me how you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you care, and that you are here. How do you love a man? Doesn't know that you love him, doesn't know that you're here, and that you're singing for him. You laughed at the wailing walls and look at those superstitious freaks pushing notes through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial plane. And can you hear me? Can you see me? I am paper thin. Can you hear me? I am paper thin. Can you feel me? I am falling. You love him, doesn't know that you care, and there you are here. How you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you care, and there you are here. Supernova, rivers burn from the center, the pivot. Now I'm void.
La Force et son morceau « How do you love a man » sur Canal B, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur, et à retrouver sur l'album « XO Skeleton » qui sort dans quelques jours chez Secret City. La Force, c'est le projet solo de l'artiste canadienne indie pop Ariel Engel. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B, diffusée sur le 94.0, mais aussi sur le DAB depuis le printemps, la radio numérique terrestre. Et nous sommes aussi en ligne sur sur canalb.fr, un site internet où vous pouvez d'ailleurs retrouver les podcasts de l'ensemble des émissions, salariés mais aussi bénévoles. Je le redis de temps en temps, la reine a quitté les réseaux sociaux. Désormais, pour vous informer du programme, chaque vendredi, une newsletter, le courrier de la reine, est envoyée aux abonnés. Newsletter dans laquelle je mets en lumière un reportage, une interview et une info à retenir. Si vous souhaitez vous abonner à cette lettre d'information, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et avant de vous quitter, la traditionnelle recommandation du jour, puisque tous les jours on termine avec des conseils d'événements à vivre, de choses à écouter, lire ou voir. Là, c'est un zoom sur des aides versées par Rennes Métropole et par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui elle dépend de l'État. Des aides pour accompagner les propriétaires dans une meilleure gestion des eaux pluviales. L'idée, c'est d'essayer de réduire la surface imperméabilisée sur le terrain de ces propriétaires pour permettre à l'eau d'infiltrer le sol plutôt que de ruisseler et de faire déborder les égouts au moment de fortes pluies. Car débordement égale inondation, égale pollution aussi, ça fait remonter tout ce qu'il y a dans les égouts. Désimperméabiliser, donc enlever le revêtement qui couvre le sol, ça permet aussi plein d'autres choses. Offrir des habitats et des ressources pour la biodiversité, recharger les nappes phréatiques, réduire aussi les îlots de chaleur urbains, d'où l'idée de proposer une aide financière. Alors c'est modeste, 30 euros par mètre carré, mais donc une aide pour inciter les habitants à mener ces opérations sur leur terrain. Attention, il faut d'abord obtenir l'accord de Rennes Métropole avant de commencer tous travaux. Des réunions publiques d'information sont par ailleurs organisées pour en apprendre plus sur ce dispositif. Il reste plusieurs dates. Mardi 26 septembre, c'est demain à 18h30, ça se passe au manoir de la Maison de Suède, donc pour le quartier Bricchini. Lundi 2 octobre à 18h, rendez-vous aux cartoucheries, cette fois pour les quartiers Clenay, Arsenal-Redon, La Courrouze. Et puis jeudi 5 octobre à 18h30, dernière réunion à l'hôtel Pasteur pour les quartiers Tabor, Saint-Hélier, Alphonse Guérin et Beauchardonnais. Pour plus d'infos, il y a toujours le site métropole.rennes.fr. La Reine, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.